Je vais reprendre un petit peu la première question de Jean-Luc tout à l'heure en ce qui concerne l'évolution, non pas de la démographie en tant que pression sur le vivant, mais en tant que propriété. Est-ce que tu as pu constater un phénomène particulier en ce qui concerne les indivisions et la problématique que ça pose, tout particulièrement en Guadeloupe? Je suppose que ce n'est pas seulement dans le grand fond. Alors ça, c'est une question. Autrement, une observation tout de même, c'est-à-dire qu'en fait, tu nous présentes un exemple que tu nous décris depuis le début comme très particulier pour la Guadeloupe. Tu nous as bien dit qu'ailleurs, notamment avec l'arrivée de la canne à sucre et tout ce que ça a impliqué avec toutes les organisations de plantation, ça se passait différemment. Enfin, ce que tu évoques du propriétaire intelligent qui fait alliance et qui donne au terrain, mais ça s'est fait dans le domaine sucrier avec les colons portiers. Mais ça n'a pas eu la même conséquence dans l'histoire. Tu le sais. Donc, est-ce que tu arrives à faire le distinguo entre, effectivement, le processus qui s'est produit dans les grands fonds, effectivement très particulier, visiblement, du secteur canier de la Guadeloupe, qui est quand même extrêmement majoritaire géographiquement, y compris Marie-Grande, d'ailleurs.
Oui.
Et juste une petite question. Bon, je ne sais pas si tu as la réponse, mais tu as indiqué une chute économique qui a obligé les gens à se déplacer, à aller chercher, etc. Est-ce que c'est lié, et notamment sur des productions particulières, je pense à l'indigo, est-ce que c'est lié au commerce international qui existait déjà à l'époque et au fait que ces produits-là, pour des raisons, notamment les Anglais, font qu'il n'y a plus de débouchés, quoi, qui va être autre chose. Voilà.
Oui. Oui, merci d'avoir évoqué l'indivision. J'aurais dû l'évoquer tout à l'heure. Mais l'indivision, ça perdure au jour d'aujourd'hui. Seulement, moi, je n'en ai pas une lecture négative. Je dis, c'est encore ce qui a permis au groupe de parenté de survivre avec des parcelles qui... Bon. L'exemple que je connais le mieux, c'est celui des Mathurins. Ils étaient très nombreux. Ils étaient 7 descendants de Mathurins. Bon. La maman était propriétaire. Malgré tout, était propriétaire. Comme elle était seule enfant de la demoiselle Alix, je crois que bon, c'est sur la base de cette propriété que bon. Mais ce que j'ai observé chez les Mathurins, c'est que arrivé à la génération, ça devait être la génération 4 ou 5, depuis le premier, à la cinquième génération, c'est la génération de Amédée, le père de Athanase Mathurin, et le père de Athanase et Janie. Ils étaient nombreux, les enfants, qui devaient... Ils sont les enfants de Saint-Jean, je crois. Oui, c'était les enfants de Saint-Jean. Saint-Jean qui est né un peu après l'affranchissement de Mathurin. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qui semble se pratiquer beaucoup dans la région? Les enfants s'entendent. Si les enfants qui ont des compétences autres que cultivateurs, ils pratiquent leurs compétences. Ils vont faire pratiquer leur métier. Ceux qui veulent rester agriculteurs, on leur concède la terre. La terre, l'héritage, on leur concède. Ils y font les vivres. Pour eux, pour leur famille, pour leur la famille, et pour vendre. Par contre, ils ne font pas un verger. Et tout ce qui est pied de bois sur le terrain, toute la descendance y a accès. Bon, le principe, c'est de garder la terre, cette terre-là, de garder cette terre en héritage. On peut venir y poser sa maison. Oui, on peut venir y poser sa maison. Il y a une concertation là où chacun peut mettre... On peut y poser sa maison. On ne la vend pas. Surtout pas à quelqu'un du dehors. Bon. C'est-à-dire que la terre comme moyen de production, l'indivision avait une formule pour la sauvegarder. Pour le compte de ceux, des enfants, des héritiers qui ont comme métier cultivateur. Amédée Mathurin, dont je parle tout à l'heure, il était cultivateur. Il a été à l'origine de la première coopérative des grands fonds de Sainte-Anne. Amédée Mathurin. Nous sommes dans les années 30. Hein. Il produisait de la volaille, machin. Bon, ça, on le retrouve. On peut, les co-héritiers peuvent venir paître leur bœufs, ils attachent leurs bœufs sur les terres, il n'y a pas de problème. Si vous y mettez des pieds de bois, des abricotiers, des machins, des arbres fruitiers, tout le monde a droit à aller cueillir dans les arbres fruitiers. Bon, moi ça ne me dérange pas comme formule. Quoi, ces parcelles, on les aurait morcelées encore? Non, ça risque de ne pas être fiable du tout, du tout. Parce que, sauf les 200 hectares, les 100 hectares d'Épée Durand, les 200 hectares de Monrot, etc., bon, c'est de petites parcelles. À l'époque esclavagiste, les habitations faisaient rarement 100 hectares. Monrot, c'est vraiment un cas spécial. C'est un cas spécial. Bon, oui, l'indivision a permis de conserver la terre comme... Et contrairement à ce qui se passe actuellement du côté de Saint-François et autres, où les gens vendent les terres à qui veux-tu au métro. Ah ouais, mais il faut aller à Saint-François pour... Mais les métros s'achètent des terres à Saint-François comme vous ne pouvez pas imaginer. Bon, ben, du côté des grands fonds, allez acheter un bout... Vous allez voir... Non, personne ne vous vendra de la terre. Personne ne vous vendra de la terre. Et ce qui se passe... Bon, si vous êtes marié à une femme, oui, là, c'est autre chose. On ne vous vendra pas nécessairement. Vous avez droit à installer votre habitation. Étant entendu que dans ce cas, c'est la femme qui, en fait, a le droit sur le terrain. Quand vous voulez partir, vous n'allez pas aller vendre... Non. Or, à Saint-François, c'est la terre, elle est vendue comme une marchandise. Bon, quand il a fini, il ne veut plus, il vend, il s'en va. C'est ça ce qui se passe sur Saint-François. Le moule, je ne connais pas, mais à Saint-François, c'est vraiment prégnant, quoi, actuellement. Oui, certainement, j'ai entendu des trucs à ce propos...